Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2, suite 6. Je venais de transmettre à Madame Verdurin le message dont m'avait chargé Morel, et je parlais de Saint-Loup avec Monsieur de Charlus, quand Cottard entra au salon en annonçant, comme s'il y avait le feu, que les Cambremer arrivaient. Madame Verdurin, pour ne pas avoir l'air, vis-à-vis de nouveau comme Monsieur de Charlus, que Cottard n'avait pas vu, et comme moi, d'attacher tant d'importance à l'arrivée des Cambremer, ne bougea pas, ne répondit pas à l'annonce de cette nouvelle, et se contenta de dire au docteur en s'éventant avec grâce, et du même ton factice qu'une marquise du Théâtre-Français. « Le baron nous disait justement... » C'en était trop pour Cottard. Moins vivement qu'il n'eût fait autrefois, car l'étude et les hautes situations avaient ralenti son débit, mais avec cette émotion tout de même qu'il retrouvait chez les Verdurin. « Un baron ? Où ça, un baron ? Où ça, un baron ? » s'écria-t-il en le cherchant des yeux, avec un étonnement qui frisait l'incrédulité. Madame Verdurin, avec l'indifférence affectée d'une maîtresse de maison à qui un domestique vient, devant les invités, de casser un verre de prix, et avec l'intonation artificielle et surélevée d'un premier prix du conservatoire jouant du Dumas fils, répondit, en désignant avec son éventail le protecteur de Morel, « Mais le baron de Charlus, à qui je vais vous nommer, monsieur le professeur Cottard ?» Il ne déplaisait d'ailleurs pas à Madame Verdurin d'avoir l'occasion de jouer à la dame. Monsieur de Charlus tendit deux doigts que le professeur serra avec le sourire bénévole d'un prince de la science. Mais il s'arrêta net en voyant entrer les Cambremer, tandis que Monsieur de Charlus m'entraînait dans un coin pour me dire un mot, non sans palper mes muscles, ce qui est une manière allemande. Monsieur de Cambremer ne ressemblait guère à la vieille marquise. Il était, comme elle le disait avec tendresse, tout à fait du côté de son papa, pour qui n'avait entendu que parler de lui, ou même de l'être de lui, vives et convenablement tournées, son physique étonnait. Sans doute devait-on s'y habituer. Mais son nez avait choisi, pour venir se placer de travers au-dessus de sa bouche, peut-être la seule ligne oblique, entre tant d'autres, qu'on eût eu l'idée de tracer sur ce visage, et qui signifiait une bêtise vulgaire, aggravée encore par le voisinage d'un teint normand à la rougeur de pomme. Il est possible que les yeux de Monsieur de Cambremer gardassent dans leurs paupières un peu de ce ciel du Cotentin, si doux par les beaux jours ensoleillés, où le promeneur s'amuse à voir, arrêtés au bord de la route, et à compter, par centaines, les ombres des peupliers. Mais ses paupières lourdes, chassieuses et mal rabattues, eussent empêché l'intelligence elle-même de passer. Aussi, décontenancé par la minceur de ce regard bleu, se reportait-on au grand nez de travers. Par une transposition de sens, Monsieur de Cambremer vous regardait avec son nez. Ce nez de Monsieur de Cambremer n'était pas laid, plutôt un peu trop beau, trop fort, trop fier de son importance. Busqué, astiqué, luisant, flambant neuf, il était tout disposé à compenser l'insuffisance spirituelle du regard. Malheureusement, si les yeux sont quelquefois l'organe où se révèle l'intelligence, le nez, quelle que soit d'ailleurs l'intime solidarité et la répercussion insoupçonnée des traits les uns sur les autres, le nez est généralement l'organe où s'étale le plus aisément la bêtise. La convenance de vêtements sombres que portait toujours, même le matin, Monsieur de Cambremer, avait beau rassurer ceux qu'éblouissait et exaspérait l'insolent éclat des costumes de plage des gens qu'il ne connaissait pas, on ne pouvait comprendre que la femme du premier président déclara d'un air de flair et d'autorité, en personne qui a plus que vous l'expérience de la haute société d'Alençon, que devant M. de Cambremer on se sentait tout de suite, même avant de savoir qui il était, en présence d'un homme de haute distinction, d'un homme parfaitement bien élevé, qui changeait du genre de Balbec, un homme enfin auprès de qui on pouvait respirer. Il était pour elle, asphyxié par tant de touristes de Balbec qui ne connaissaient pas son monde, comme un flacon de sel. Il me sembla au contraire qu'il était des gens que ma grand-mère eût trouvés tout de suite très mal, et comme elle ne comprenait pas le snobisme, elle eût sans doute été stupéfaite qu'il eût réussi à être épousé par Mademoiselle Legrandin, qui devait être difficile en fait de distinction, elle, dont le frère était si bien. Tout au plus, pouvait-on dire de la laideur vulgaire de M. de Cambremer qu'elle était un peu du pays et avait quelque chose de très anciennement local. On pensait, devant ses traits fautifs et qu'on eût voulu rectifier, à ces noms de petites villes normandes sur l'étymologie desquelles mon curé se trompait, parce que les paysans, articulant mal ou ayant compris de travers le mot normand ou latin qui les désigne, on finit par fixer dans un barbarisme qu'on trouve déjà dans les cartulaires, comme eût dit Brichot, un contresens et un vice de prononciation. La vie dans ces vieilles petites villes peut d'ailleurs se passer agréablement, et M. de Cambremer devait avoir des qualités, car s'il était d'une mère que la vieille marquise préféra son fils à sa belle-fille, en revanche, elle qui avait plusieurs enfants, dont deux au moins n'étaient pas sans mérite, déclarait souvent que le marquis était à son avis le meilleur de la famille. Pendant le peu de temps qu'il avait passé dans l'armée, ses camarades, trouvant trop long de dire « Cambremer », lui avaient donné le surnom de « Cancan », qu'il n'avait d'ailleurs mérité en rien. Il savait orner un dîner où on l'invitait, en disant au moment du poisson « Le poisson fut-il pourri ?» ou à l'entrée « Mais dites donc, il me semble que voilà une belle bête !» Et sa femme, ayant adopté en entrant dans la famille tout ce qu'elle avait cru faire partie du genre de ce monde-là, se mettait à la hauteur des amis de son mari, et peut-être cherchait à lui plaire comme une maîtresse, et comme si elle avait jadis été mêlée à sa vie de garçon, en disant d'un air dégagé, quand elle parlait de lui à des officiers, « Vous allez voir Cancan. Cancan est allé à Balbec, mais il reviendra ce soir. » Elle était furieuse de se compromettre ce soir chez les Verdurin, et ne le faisait qu'à la prière de sa belle-mère et de son mari, dans l'intérêt de la location. Mais, moins bien élevée qu'eux, elle ne se cachait pas du motif, et depuis 15 jours faisait avec ses amis des gorges chaudes de ce dîner. « Vous savez que nous dînons chez nos locataires. Cela vaudra bien une augmentation. Au fond, je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils ont pu faire de notre pauvre vieille raspelière. » Comme si elle y fût née et y retrouva tous les souvenirs des siens. « Notre vieux garde m'a encore dit hier qu'on ne reconnaissait plus rien. » Je n'ose pas penser à tout ce qui doit se passer là-dedans. Je crois que nous ferons bien de faire désinfecter tout avant de nous réinstaller. » Elle arriva, hautaine et morose, de l'air d'une grande dame dont le château, du fait d'une guerre, est occupé par les ennemis, mais qui se sent tout de même chez elle et tient à montrer aux vainqueurs qu'ils sont des intrus. Madame de Cambremer ne put me voir d'abord, car j'étais dans une baie latérale avec M. de Charlus, lequel me disait avoir appris par Morel que son père avait été intendant dans ma famille et qu'il comptait suffisamment, lui Charlus, sur mon intelligence et ma magnanimité, terme commun à lui et à Swann, pour me refuser l'ignoble et mesquin plaisir que de vulgaires petits imbéciles, j'étais prévenu, ne manqueraient pas, à ma place, de prendre en révélant à nos hôtes des détails que ceux-ci pourraient croire amoindrissants. Le seul fait que je m'intéresse à lui et étende sur lui ma protection a quelque chose de suréminent et abolit le passé, conclut le baron. Tout en l'écoutant et en lui promettant le silence, que j'aurais gardé, même sans l'espoir de passer en échange pour intelligent et magnanime, je regardais Madame de Cambremer. Et j'eus peine à reconnaître la chose fondante et savoureuse que j'avais eue l'autre jour auprès de moi à l'heure du goûter sur la terrasse de Balbec, dans la galette normande que je voyais, dure comme un galet, où les fidèles eussent en vain essayé de mettre la dent. Irritée d'avance du côté bonasse que son mari tenait de sa mère et qui lui ferait prendre un air honoré quand on lui présenterait l'assistance des fidèles, désireuse pourtant de remplir ses fonctions de femme du monde, quand on lui eut nommé Brichot, elle voulut lui faire faire la connaissance de son mari, parce qu'elle avait vu ses amies plus élégantes faire ainsi. Mais la rage ou l'orgueil l'emportant sur l'ostentation du savoir-vivre, elle dit, non comme elle aurait dû, « Permettez-moi de vous présenter mon mari. » « Mais je vous présente à mon mari. » tenant haut ainsi le drapeau des Cambremer, en dépit d'eux-mêmes, car le marquis s'inclina devant Brichot aussi bas qu'elle avait prévu. Mais toute cette humeur de Madame de Cambremer changea soudain quand elle aperçut M. de Charlus, qu'elle connaissait de vue. Jamais elle n'avait réussi à se le faire présenter, même au temps de la liaison qu'elle avait eue avec Swann, car M. de Charlus, prenant toujours le parti des femmes, de sa belle-sœur contre les maîtresses de M. de Guermantes, d'Odette, pas encore mariée alors, mais vieille liaison de Swann, contre les nouvelles, avait, sévère défenseur de la morale et protecteur fidèle des ménages, donné à Odette, et tenu, la promesse de ne pas se laisser nommer à Madame de Cambremer. Celle-ci ne s'était certes pas doutée que c'était chez les Verdurin qu'elle connaîtrait enfin cet homme inapprochable. Monsieur de Cambremer savait que c'était une si grande joie pour elle qu'il en était lui-même attendri et qu'il regarda sa femme d'un air qui signifiait « Vous êtes contente de vous être décidée à venir, n'est-ce pas ?» Il parlait du reste fort peu, sachant qu'il avait épousé une femme supérieure. « Moi, indigne !» disait-il à tout moment, et citait volontiers une fable de La Fontaine et une de Florian qui lui paraissait s'appliquer à son ignorance, et d'autre part, lui permettre, sous les formes d'une dédaigneuse flatterie, de montrer aux hommes de science, qui n'étaient pas du jockey, qu'on pouvait chasser et avoir lu des fables. Le malheur est qu'il n'en connaissait guère que deux. Aussi revenait-elle souvent. Madame de Cambremer n'était pas bête, mais elle avait diverses habitudes fort agaçantes. Chez elle, la déformation des noms n'avait absolument rien du dédain aristocratique. Ce n'était pas elle qui, comme la duchesse de Guermantes, laquelle par sa naissance eût dû être, plus que Madame de Cambremer, à l'abri de ce ridicule, eût dit, pour ne pas avoir l'air de savoir le nom peu élégant, alors qu'il est maintenant celui d'une des femmes les plus difficiles à approcher, de Julien de Montchâteau. « Une petite madame, pique de la Mirandole. » Non, quand Madame de Cambremer citait à faux un nom, c'était par bienveillance, pour ne pas avoir l'air de savoir quelque chose. Et quand, par sincérité, pourtant elle l'avouait, croyant le cacher en le démarquant. Si, par exemple, elle défendait une femme, elle cherchait à dissimuler, tout en voulant ne pas mentir à qui la suppliait de dire la vérité, que Madame une telle était actuellement la maîtresse de Monsieur Sylvain Lévy, et elle disait « Non, je ne sais absolument rien sur elle. Je crois qu'on lui a reproché d'avoir inspiré une passion à un monsieur dont je ne sais pas le nom, quelque chose comme canne, conne, cune. Du reste, je crois que ce monsieur est mort depuis fort longtemps et qu'il n'y a jamais rien eu entre eux. C'est le procédé semblable à celui des menteurs, et inverse du leur, qui, en altérant ce qu'ils ont fait quand ils le racontent à une maîtresse ou simplement à un ami, se figure que l'une ou l'autre ne verra pas immédiatement que la phrase dite, de même que « can, con, cune », est interpolée, est d'une autre espèce que celle qui compose la conversation, est à double fond. Madame Verdurin demanda à l'oreille de son mari « Est-ce que je donne le bras au baron de Charlus ? Comme tu auras à ta droite madame de Cambremer, on aurait pu croiser les politesses. » « Non, dit monsieur Verdurin, puisque l'autre est plus élevé en grade, voulant dire que monsieur de Cambremer était marquis. Monsieur de Charlus est en somme son inférieur. Eh bien, je le mettrai à côté de la princesse. » Et madame Verdurin présenta à monsieur de Charlus madame Sherbatoff. Ils s'inclinèrent en silence tous deux, de l'air d'en savoir long l'un sur l'autre et de se promettre un mutuel secret. Monsieur Verdurin me présenta à monsieur de Cambremer. Avant même qu'il n'eût parlé de sa voix forte et légèrement bégayante, sa haute taille et sa figure colorée manifestaient dans leur oscillation l'hésitation martiale d'un chef qui cherche à vous rassurer et vous dit « On m'a parlé, nous arrangerons cela. Je vous ferai lever votre punition. Nous ne sommes pas des buveurs de sang, tout ira bien. » Puis, me serrant la main, « Je crois que vous connaissez ma mère, » me dit-il. Le verbe « croire » lui semblait d'ailleurs convenir à la discrétion d'une première présentation, mais nullement exprimer un doute, car il ajouta « J'ai du reste une lettre d'elle pour vous. » Monsieur de Cambremer était naïvement heureux de revoir des lieux où il avait vécu si longtemps. « Je me retrouve, » dit-il à madame Verdurin, tandis que son regard s'émerveillait de reconnaître les peintures de fleurs en trumeaux au-dessus des portes et les bustes en marbre sur leur haut socle. Il pouvait pourtant se trouver dépaysé, car madame Verdurin avait apporté quantité de vieilles belles choses qu'elle possédait. À ce point de vue, madame Verdurin, tout en passant aux yeux des Cambremer pour tout bouleverser, était non pas révolutionnaire, mais intelligemment conservatrice, dans un sens qu'il ne comprenait pas. Il l'accusait aussi à tort de détester la vieille demeure et de la déshonorer par de simples toiles au lieu de leurs riches peluches. Comme un curé ignorant, reprochant à un architecte diocésain de remettre en place de vieux bois sculptés laissés aux rancards et auxquels l'ecclésiastique avait cru bon de substituer des ornements achetés place Saint-Sulpice. Enfin, un jardin de curé commençait à remplacer, devant le château, les plates-bandes qui faisaient l'orgueil non seulement des Cambremer, mais de leurs jardiniers. Celui-ci, qui considérait les Cambremer comme ses seuls maîtres, et gémissait sous le joug des Verdurin, comme si la terre eût été momentanément occupée par un envahisseur et une troupe de soudards, allait en secret porter ses doléances à la propriétaire dépossédée, s'indignait du mépris où étaient tenus ses araucarias, ses bégonias, ses joubarbes, ses dahlias doubles, et qu'on osât, dans une aussi riche demeure, faire pousser des fleurs aussi communes que des anthémis et des cheveux de Vénus. Madame Verdurin sentait cette sourde opposition et était décidée, si elle faisait un long bail ou même achetait la raspelière, à mettre comme condition le renvoi du jardinier, auquel la vieille propriétaire, au contraire, tenait extrêmement. Il l'avait servi pour rien dans des temps difficiles, l'adorait. Mais par ce morcellement bizarre de l'opinion des gens du peuple, où le mépris moral le plus profond s'enclave dans l'estime la plus passionnée, laquelle chevauche à son tour de vieilles rancunes inabolies, il disait souvent de madame de Cambremer qui, en 70, dans un château qu'elle avait dans l'Est, surprise par l'invasion, avait dû souffrir pendant un mois le contact des Allemands. Ce qu'on a beaucoup reproché à Madame la Marquise, c'est, pendant la guerre, d'avoir pris le parti des Prussiens et de les avoir même logés chez elle. À un autre moment, j'aurais compris, mais en temps de guerre, elle n'aurait pas dû, c'est pas bien. De sorte qu'il lui était resté fidèle jusqu'à la mort, la vénérait pour sa bonté et accréditait qu'elle se fût rendue coupable de trahison. Madame Verdurin fut piquée que M. de Cambremer prétendit reconnaître si bien la Raspelière. « Vous devez pourtant trouver quelque changement, » répondit-elle. « Il y a d'abord de grands diables de bronze de barbe d'hyène et de petits coquins de siège en peluche que je me suis empressée d'expédier au grenier, qui est encore trop bon pour eux. » Après cette acerbe riposte adressée à M. de Cambremer, elle lui offrit le bras pour aller à table. Il hésita un instant, se disant « Je ne peux tout de même pas passer avant M. de Charlus. » Mais, pensant que celui-ci était un vieil ami de la maison, du moment qu'il n'avait pas la place d'honneur, il se décida à prendre le bras qui lui était offert et dit à Madame Verdurin combien il était fier d'être admis dans le cénacle. C'est ainsi qu'il appela le petit noyau, non sans rire un peu de la satisfaction de connaître ce terme. Cottard, qui était assis à côté de M. de Charlus, le regardait, pour faire connaissance, sous son lorgnon, et pour rompre la glace avec des clignements beaucoup plus insistants qu'ils n'eussent été jadis, et non coupés de timidité. Et ses regards engageants, accrus par leur sourire, n'étaient plus contenus par le verre du lorgnon et le débordaient de tous côtés. Le baron, qui voyait facilement partout des pareils à lui, ne douta pas que Cottard n'en fût un, et ne lui fit de l'œil. Aussitôt, il témoigna au professeur la dureté des invertis, aussi méprisant pour ceux à qui ils plaisent qu'ardemment empressés auprès de ceux qui leur plaisent. Sans doute, bien que chacun parle mensongèrement de la douceur, toujours refusée par le destin, d'être aimé, c'est une loi générale et dont l'empire est bien loin de s'étendre sur les seuls charlus, que l'être que nous n'aimons pas et qui nous aime nous paraisse insupportable. À cet être, à telle femme dont nous ne dirons pas qu'elle nous aime, mais qu'elle nous cramponne, nous préférons la société de n'importe quelle autre qui n'aura ni son charme, ni son agrément, ni son esprit. Elle ne les recouvrera pour nous que quand elle aura cessé de nous aimer. En ce sens, on pourrait ne voir que la transposition, sous une forme cocasse, de cette règle universelle dans l'irritation causée chez un inverti par un homme qui lui déplaît et le recherche. Mais elle est chez lui bien plus forte. Aussi, tandis que le commun des hommes cherche à la dissimuler tout en l'éprouvant, l'inverti la fait implacablement sentir à celui qui la provoque, comme il ne le ferait certainement pas sentir à une femme. Monsieur de Charlus, par exemple, à la princesse de Guermantes, dont la passion l'ennuyait, mais le flattait. Mais quand ils voient un autre homme témoigner envers eux d'un goût particulier, alors, soit incompréhension que ce soit le même que le leur, soit fâcheux rappel que ce goût, embelli par eux tant que c'est eux-mêmes qui l'éprouvent, est considéré comme un vice, soit désir de se réhabiliter par un éclat dans une circonstance où cela ne leur coûte pas, soit par une crainte d'être deviné, qu'ils retrouvent soudain quand le désir ne les mène plus, les yeux bandés, d'imprudence en imprudence, soit par la fureur de subir, du fait de l'attitude équivoque d'un autre, le dommage que par la leur, si cet autre leur plaisait, ils ne craindraient pas de lui causer. Ceux que cela n'embarrasse pas de suivre un jeune homme pendant des lieues, de ne pas le quitter des yeux au théâtre, même s'il est avec des amis, risquant par cela de le brouiller avec eux. On peut les entendre, pour peu qu'un autre qui ne leur plaît pas les regarde, dire « Monsieur, pour qui me prenez-vous ? » Simplement parce qu'on les prend pour ce qu'ils sont. « Je ne vous comprends pas. Inutile d'insister, vous faites erreur. Aller au besoin jusqu'aux gifles, et devant quelqu'un qui connaît l'imprudent, s'indigner. Comment, vous connaissez cette horreur? Elle a une façon de vous regarder. En voilà des manières. Monsieur de Charlus n'alla pas aussi loin, mais il prit l'air offensé et glacial qu'ont, lorsqu'on a l'air de les croire légères, les femmes qui ne le sont pas, et encore plus celles qui le sont. D'ailleurs, l'inverti, mis en présence d'un inverti, voit non pas seulement une image déplaisante de lui-même, qui ne pourrait, purement inanimé, que faire souffrir son amour-propre, mais un autre lui-même, vivant, agissant dans le même sens, capable donc de le faire souffrir dans ses amours. Aussi, est-ce dans un sens d'instinct de conservation qu'il dira du mal du concurrent possible, soit avec les gens qui peuvent nuire à celui-ci, et sans que l'inverti numéro un s'inquiète de passer pour menteur quand il accable ainsi l'inverti numéro deux aux yeux de personnes qui peuvent être renseignées sur son propre cas. Soit avec le jeune homme qu'il a levé, qui va peut-être lui être enlevé, et auquel il s'agit de persuader que les mêmes choses qu'il a tout avantage à faire avec lui causeraient le malheur de sa vie s'il se laissait aller à les faire avec l'autre. Pourtant, M. de Charlus, qui pensait peut-être au danger, bien imaginaire, que la présence de ce cotard, dont il comprenait à faux le sourire, ferait courir à Morel, un inverti qui ne lui plaisait pas, n'était pas seulement une caricature de lui-même, c'était aussi un rival désigné. Un commerçant, et tenant un commerce rare, en débarquant dans la ville de province où il vient s'installer pour la vie, s'il voit que, sur la même place, juste en face, le même commerce est tenu par un concurrent, il n'est pas plus déconfit qu'un charlu allant cacher ses amours dans une région tranquille et qui, le jour de l'arrivée, aperçoit le gentilhomme du lieu ou le coiffeur, desquels l'aspect et les manières ne lui laissent aucun doute. Le commerçant prend souvent son concurrent en haine. Cette haine dégénère parfois en mélancolie, et pour peu qu'il y ait hérédité assez chargée, on a vu, dans des petites villes, le commerçant montrer des commencements de folie qu'on ne guérit qu'en le décidant à vendre son fonds et à s'expatrier. La rage de l'inverti est plus lancinante encore. Il a compris que, dès la première seconde, le gentilhomme et le coiffeur ont désiré son jeune compagnon. Il a beau répéter 100 fois par jour à celui-ci que le coiffeur et le gentilhomme sont des bandits dont l'approche le déshonorerait, il est obligé, comme Harpagon, de veiller sur son trésor et se relève la nuit pour voir si on ne le lui prend pas. Et c'est ce qui fait sans doute, plus encore que le désir ou la commodité d'habitude commune, et presque autant que cette expérience de soi-même, qui est la seule vraie, que l'inverti dépiste l'inverti avec une rapidité et une sûreté presque infaillibles. Il peut se tromper un moment, mais une divination rapide le remet dans la vérité. Aussi, l'erreur de M. de Charlus fut-elle courte. Le discernement divin lui montra, au bout d'un instant, que Cottard n'était pas de sa sorte et qu'il n'avait à craindre ses avances ni pour lui-même, ce qui n'eût fait que l'exaspérer, ni pour Morel, ce qui lui eût paru plus grave. Il reprit son calme et, comme il était encore sous l'influence du passage de Vénus androgyne, par moments il souriait faiblement au verre du Rhin, sans prendre la peine d'ouvrir la bouche, en déplissant seulement un coin de lèvre, et, pour une seconde, allumait câlinement ses yeux, lui, si féru de virilité, exactement comme eût fait sa belle-sœur, la duchesse de Guermantes. « Vous chassez beaucoup, monsieur ?» dit Madame Verdurin avec mépris à monsieur de Cambremer. « Est-ce que ce qui vous a raconté qu'il nous en est arrivé une excellente ?» demanda Cottard à la patronne. « Je chasse surtout dans la forêt de Chantepie, répondit M. de Cambremer. « Non, je n'ai rien raconté, » dit Ski. « Mérite-t-elle son nom ?» demanda Brichot à M. de Cambremer, après m'avoir regardé du coin de l'œil, car il m'avait promis de parler étymologie, tout en me demandant de dissimuler au Cambremer le mépris que lui inspirait celle du curé de Combray. C'est sans doute que je ne suis pas capable de comprendre, mais je ne saisis pas votre question, dit M. de Cambremer. Je veux dire, est-ce qu'il y chante beaucoup de pis? Répondit Brichot. Cottard, cependant, souffrait que Madame Verdurin ignorât qu'ils avaient failli manquer le train. Allons, voyons, dit Madame Cottard à son mari pour l'encourager. Raconte ton odyssée. En effet, elle sort de l'ordinaire, dit le docteur qui recommença son récit. Quand j'ai vu que le train était en gare, je suis restée médusée. Tout cela par la faute de Ski. Vous êtes plutôt bizarroïde dans vos renseignements, mon cher. Et Brichot qui nous attendait à la gare. Mais je croyais, dit l'universitaire, en jetant autour de lui ce qui lui restait de regard et en souriant de ses lèvres minces, que si vous vous étiez attardé à Grincourt, c'est que vous aviez rencontré quelque péripatéticienne. Voulez-vous vous taire, si ma femme vous entendait? Dit le professeur. La femme à moi, il est jalouse. Ah, ce Brichot! S'écria Ski, en qui les grillardes plaisanteries de Brichot éveillaient la gaieté de tradition. Il est toujours le même! Bien qu'il ne sût pas, à vrai dire, si l'universitaire avait jamais été polisson. Et pour ajouter à ses paroles consacrées le geste rituel, il fit mine de ne pouvoir résister au désir de lui pincer la jambe. « Il ne change pas, ce gaillard-là !» continua Ski. Et, sans penser à ce que la quasi-cécité de l'universitaire donnait de triste et de comique à ces mots, il ajouta « Toujours un petit œil pour les femmes !»« Voyez-vous, » dit M. de Cambremer, « ce que c'est que de rencontrer un savant. Voilà 15 ans que je chasse dans la forêt de Chantepie, et jamais je n'avais réfléchi à ce que son nom voulait dire. » Madame de Cambremer jeta un regard sévère à son mari. Elle n'aurait pas voulu qu'il s'humiliât ainsi devant Brichot. Elle fut plus mécontente encore quand, à chaque expression toute faite qu'employait Cancan, Cottard, qui en connaissait le fort et le faible parce qu'il les avait laborieusement apprises, démontrait au marquis, lequel confessait sa bêtise, qu'elle ne voulait rien dire. « Pourquoi bête comme chou ? Croyez-vous que les choux soient plus bêtes qu'autre chose ? Vous dites, répétez 36 fois la même chose. Pourquoi particulièrement 36 ? Pourquoi dormir comme un pieu ? Pourquoi tonnerre de Brest ? Pourquoi faire les 400 coups ? Mais alors la défense de M. de Cambremer était prise par Brichot, qui expliquait l'origine de chaque locution. Mais Madame de Cambremer était surtout occupée à examiner les changements que les Verdurin avaient apportés à la Raspelière, afin de pouvoir en critiquer certains, en importer à Féterne d'autres, ou peut-être les mêmes. « Je me demande ce que c'est que ce lustre qui s'en va tout de traviole. J'ai peine à reconnaître ma vieille Raspelière !» ajouta-t-elle d'un air familièrement aristocratique, comme elle eût parlé d'un serviteur dont elle eût prétendu moins désigner l'âge que dire qu'il l'avait vu naître. Et comme elle était un peu livresque dans son langage, « Tout de même, » ajouta-t-elle à mi-voix, « il me semble que si j'habitais chez les autres, j'aurais quelque vergogne à tout changer ainsi. C'est malheureux que vous ne soyez pas venu avec eux, » dit Madame Verdurin à M. de Charlus et à Morel, espérant que M. de Charlus était de revue et se plierait à la règle d'arriver tous par le même train. « Vous êtes sûr que Chantepie veut dire la pie qui chante, chochotte ?» ajouta-t-elle pour montrer qu'en grande maîtresse de maison, elle prenait part à toutes les conversations à la fois. « Parlez-moi donc un peu de ce violoniste, » me dit madame de Cambremer. Il m'intéresse, j'adore la musique, et il me semble que j'ai entendu parler de lui. Faites mon instruction. » Elle avait appris que Morel était venu avec monsieur de Charlus et voulait, en faisant venir le premier, tâcher de se lier avec le second. Elle ajouta pourtant, pour que je ne pusse deviner cette raison, « Monsieur Brichot aussi m'intéresse. » Car si elle était fort cultivée, de même que certaines personnes prédisposées à l'obésité mangent à peine et marchent toute la journée sans cesser d'engraisser à vue d'œil, de même madame de Cambremer avait beau approfondir, et surtout à Féterne, une philosophie de plus en plus ésotérique, une musique de plus en plus savante, elle ne sortait de ses études que pour machiner des intrigues qui lui permissent de couper les amitiés bourgeoises de sa jeunesse et de nouer des relations qu'elle avait cru d'abord faire partie de la société de sa belle famille et qu'elle s'était aperçue ensuite être située beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Un philosophe qui n'était pas assez moderne pour elle, Leibniz, a dit que le trajet est long de l'intelligence au cœur. Ce trajet, madame de Cambremer n'avait pas été, plus que son frère, de force à le parcourir. Ne quittant la lecture de Stuart Mill que pour celle de Lachelier, au fur et à mesure qu'elle croyait moins à la réalité du monde extérieur, elle mettait plus d'acharnement à chercher à s'y faire, avant de mourir, une bonne position. Éprise d'art réaliste, aucun objet ne lui paraissait assez humble pour servir de modèle au peintre ou à l'écrivain. Un tableau ou un roman mondain lui eussent donné la nausée. Un moujik de Tolstoï, un paysan de Millet, était l'extrême limite sociale qu'elle ne permettait pas à l'artiste de dépasser. Mais franchir celle qui bornait ses propres relations, s'élever jusqu'à la fréquentation de duchesse, était le but de tous ses efforts. Tant le traitement spirituel auquel elle se soumettait, par le moyen de l'étude des chefs-d'œuvre, restait inefficace contre le snobisme congénital et morbide qui se développait chez elle. Celui-ci avait même fini par guérir certains penchants à l'avarice et à l'adultère, auxquels, étant jeune, elle était encline, pareil en cela à ces états pathologiques singuliers et permanents, qui semblent immuniser ceux qui en sont atteints contre les autres maladies. Je ne pouvais, du reste, m'empêcher, en l'entendant parler, de rendre justice, sans y prendre aucun plaisir, au raffinement de ses expressions. C'était celle qu'ont, à une époque donnée, toutes les personnes d'une même envergure intellectuelle, de sorte que l'expression raffinée fournit aussitôt, comme l'arc de cercle, le moyen de décrire et de limiter toute la circonférence. Aussi, ces expressions font-elles que les personnes qui les emploient m'ennuient immédiatement comme déjà connues, mais aussi passent pour supérieures, et me furent souvent offertes comme voisines délicieuses et inappréciées. Vous n'ignorez pas, madame, que beaucoup de régions forestières tirent leur nom des animaux qui les peuplent. À côté de la forêt de Chantepie, vous avez le bois de Chanterenne. Je ne sais pas de quelle reine il s'agit, mais vous n'êtes pas galant pour elle, dit monsieur de Cambremer. Attrapez, Chochotte, dit madame Verdurin. Et à part cela, le voyage s'est bien passé? Nous n'avons rencontré que de vagues humanités qui remplissaient le train. Mais je réponds à la question de monsieur de Cambremer. Reine n'est pas ici la femme d'un roi, mais la grenouille. C'est le nom qu'elle a gardé longtemps dans ce pays, comme en témoigne la station de Renneville, qui devrait s'écrire R-E-I-N-E, Renneville. Il me semble que vous avez là une belle bête, dit monsieur de Cambremer à madame Verdurin en montrant un poisson. C'était là un de ses compliments à l'aide desquels il croyait payer son écho à un dîner et déjà rendre sa politesse. « Les invités est inutile, disait-il souvent en parlant de tels de leurs amis à sa femme. « Ils ont été enchantés de nous avoir. C'était eux qui me remerciaient. » D'ailleurs, je dois vous dire que je vais presque chaque jour à Renneville depuis bien des années, et je n'y ai pas vu plus de grenouilles qu'ailleurs. Madame de Cambremer avait fait venir ici le curé d'une paroisse où elle a de grands biens, et qui a la même tournure d'esprit que vous, à ce qu'il me semble. Il a écrit un ouvrage. Je crois bien, je l'ai lu avec infiniment d'intérêt, répondit hypocritement Brichot. La satisfaction que son orgueil recevait indirectement de cette réponse fit rire longuement M. de Cambremer. Eh bien, l'auteur, comment dirais-je, de cette géographie, de ce glossaire, épilogue longuement sur le nom d'une petite localité dont nous étions autrefois, si je puis dire, les seigneurs, et qui se nomme Pont-à-Couleuvre. Or, je ne suis évidemment qu'un vulgaire ignorant à côté de ce puits de science, mais je suis bien allé mille fois à Pont-à-Couleuvre pour lui une, et du diable si j'y ai jamais vu un seul de ces vilains serpents. Je dis vilain, malgré l'éloge qu'en fait le bon La Fontaine. L'homme et la couleuvre étaient une des deux fables. Vous n'en avez pas vu, et c'est vous qui avez vu juste, répondit Brichot. Certes, l'écrivain dont vous parlez connaît à fond son sujet. Il a écrit un livre remarquable. Voir ! S'exclama Madame de Cambremer. Ce livre, c'est bien le cas de le dire, est un véritable travail de bénédictin. Sans doute, il a consulté quelques pouillés. On entend par là les listes des bénéfices et des cures de chaque diocèse. Ce qui a pu lui fournir le nom des patrons laïcs et des collateurs ecclésiastiques. Mais il est d'autres sources. Un de mes plus savants amis y a puisé. Il a trouvé que le même lieu était dénommé Pont-à-Couleuvre. Ce nom bizarre l'incita à remonter plus haut encore, à un texte latin où le pont que votre ami croit infesté de couleuvres est désigné Pons qui aperit. Pont fermé qui ne s'ouvrait que moyennant une honnête rétribution. Vous parlez de grenouille. Moi, en me trouvant au milieu de personnes si savantes, je me fais l'effet de la grenouille devant l'aéréopage. C'était la seconde fable. Dit Cancan, qui faisait souvent, en riant beaucoup, cette plaisanterie grâce à laquelle il croyait à la fois, par humilité et avec à propos, faire profession d'ignorance et étalage de savoir. Quant à Cottard, bloqué par le silence de M. de Charlus et essayant de se donner de l'air des autres côtés, il se tourna vers moi et me fit une de ces questions qui frappaient ses malades s'il était tombé juste et montrait ainsi qu'il était, pour ainsi dire, dans leur corps. Si, au contraire, il tombait à faux, lui permettait de rectifier certaines théories, d'élargir les points de vue anciens. Quand vous arriverez à ces sites relativement élevés comme celui où nous nous trouvons en ce moment, remarquez-vous que cela augmente votre tendance aux étouffements ? Me demanda-t-il, certain ou de faire admirer ou de compléter son instruction. Monsieur de Cambremer entendit la question et sourit. Je ne peux pas vous dire, comme ça m'amuse d'apprendre que vous avez des étouffements, me jeta-t-il à travers la table. Il ne voulait pas dire par cela que cela l'égayait, bien que ce fût vrai aussi. Car cet homme excellent ne pouvait cependant pas entendre parler du malheur d'autrui sans un sentiment de bien-être et un spasme d'hilarité qui faisait vite place à la pitié d'un bon cœur. Mais sa phrase avait un autre sens, que précisa celle qui la suivit. « Ça m'amuse, me dit-il, parce que justement ma sœur en a aussi. » En somme, cela l'amusait comme s'il m'avait entendu citer, comme un de mes amis, quelqu'un qui eût fréquenté beaucoup chez eux. « Comme le monde est petit !» fut la réflexion qu'il formula mentalement et que je vis écrite sur son visage souriant, quand Cottard me parla de mes étouffements. Et ceux-ci devinrent, à dater de ce dîner, comme une sorte de relation commune, et dont M. de Cambremer ne manquait jamais de me demander des nouvelles, ne fût-ce que pour en donner à sa sœur. Tout en répondant aux questions que sa femme me posait sur Morel, je pensais à une conversation que j'avais eue avec ma mère dans l'après-midi. Comme, tout en ne me déconseillant pas d'aller chez les Verdurin si cela pouvait me distraire, elle me rappelait que c'était un milieu qui n'aurait pas plu à mon grand-père et lui eût fait crier « À la garde !» Ma mère avait ajouté « Écoute, le président Toureuil et sa femme m'ont dit qu'ils avaient déjeuné avec Madame Bontemps. On ne m'a rien demandé, mais j'ai cru comprendre qu'un mariage entre Albertine et toi serait le rêve de sa tante. Je crois que la vraie raison est que tu l'aurais à tous très sympathique. Tout de même, le luxe qu'il croit que tu pourrais lui donner, les relations qu'on sait plus ou moins que nous avons, je crois que tout cela n'y est pas étranger, quoique secondaire. Je ne t'en aurais pas parlé, parce que je n'y tiens pas, mais comme je me figure qu'on t'en parlera, j'ai mieux aimé prendre les devants. « Mais toi, comment la trouves-tu » avais-je demandé à ma mère. « Mais moi, ce n'est pas moi qui l'épouserai. Tu peux certainement faire mille fois mieux comme mariage, mais je crois que ta grand-mère n'aurait pas aimé qu'on t'influence. Actuellement, je ne peux pas te dire comment je trouve Albertine. Je ne la trouve pas. Je te dirai, comme Madame de Sévigné, elle a de bonnes qualités, du moins je le crois. » Mais dans ce commencement, je ne sais la louer que par des négatives. Elle n'est point ceci, elle n'a point l'accent de Rennes. Avec le temps, je dirai peut-être, elle est cela, et je la trouverai toujours bien si elle doit te rendre heureux. Mais par ces mots même, qui remettaient entre mes mains de décider de mon bonheur, ma mère m'avait mis dans cet état de doute, où j'avais déjà été quand, mon père m'ayant permis d'aller à Phèdre, et surtout d'être homme de lettres, je m'étais senti tout à coup une responsabilité trop grande, la peur de le peiner, et cette mélancolie qu'il y a quand on cesse d'obéir à des ordres, qui, au jour le jour, vous cache l'avenir, de se rendre compte qu'on a enfin commencé de vivre pour de bon, comme une grande personne, la vie, la seule vie qui soit à la disposition de chacun d'entre nous. Peut-être le mieux serait-il d'attendre un peu, de commencer par voir Albertine comme par le passé pour tâcher d'apprendre si je l'aimais vraiment. Je pourrais l'amener chez les Verdurin pour la distraire, et ceci me rappela que je n'y étais venue moi-même ce soir que pour savoir si Madame Putebu y habitait ou allait y venir. En tout cas, elle ne dînait pas. « À propos de votre ami Saint-Loup, me dit Madame de Cambremer, usant ainsi d'une expression qui marquait plus de suite dans les idées que ces phrases ne l'eussent laissé croire. Car si elle me parlait de musique, elle pensait aux Guermantes. « Vous savez que tout le monde parle de son mariage avec la nièce de la princesse de Guermantes ? Je vous dirai que pour ma part, de tous ces potins mondains, je ne me préoccupe mi. » Je fus pris de la crainte d'avoir parlé sans sympathie devant Robert de cette jeune fille faussement originale et dont l'esprit était aussi médiocre que le caractère était violent. Il n'y a presque pas une nouvelle que nous apprenions qui ne nous fasse regretter un de nos propos. Je répondis à Madame de Cambremer, ce qui du reste était vrai, que je n'en savais rien et que d'ailleurs la fiancée me paraissait encore bien jeune. « C'est peut-être pour cela que ce n'est pas encore officiel. En tout cas, on le dit beaucoup. »« J'aime mieux vous prévenir, » dit sèchement Madame Verdurin à Madame de Cambremer. Ayant entendu que celle-ci m'avait parlé de Morel, et, quand elle avait baissé la voix pour me parler des fiançailles de Saint-Loup, ayant cru qu'elle m'en parlait encore. « Ce n'est pas de la musiquette qu'on fait ici. » En art, vous savez, les fidèles de mes mercredis, mes enfants, comme je les appelle, c'est effrayant ce qu'ils sont avancés, ajouta-t-elle avec un air d'orgueilleuse terreur. Je leur dis quelquefois, mes petites bonnes gens, vous marchez plus vite que votre patronne, à qui les audaces ne passent pas pourtant pour avoir jamais fait peur. Tous les ans, ça va un peu plus loin. Je vois bientôt le jour où ils ne marcheront plus pour Wagner et pour Dindy. Mais c'est très bien d'être avancé, on ne l'est jamais assez, dit madame de Cambremer, tout en inspectant chaque coin de la salle à manger, en cherchant à reconnaître les choses qu'avait laissées sa belle-mère, celles qu'avait apportées madame Verdurin, et à prendre celles-ci en flagrant délit de faute de goût. Cependant, elle cherchait à me parler du sujet qui l'intéressait le plus, monsieur de Charlus. Elle trouvait touchant qu'il protégeât un violoniste. Il a l'air intelligent. Même d'une verve extrême pour un homme déjà un peu âgé, dis-je. Âgé? Mais il n'a pas l'air âgé. Regardez, le cheveu est resté jeune. Car depuis 3 ou 4 ans, le mot « cheveux » avait été employé au singulier par un de ces inconnus qui sont les lanceurs des modes littéraires. Et toutes les personnes ayant la longueur de rayon de madame de Cambremer disaient « le cheveu » non sans un sourire affecté. À l'heure actuelle, on dit encore « le cheveu », mais de l'excès du singulier renaîtra le pluriel. Ce qui m'intéresse surtout chez monsieur de Charlus, ajouta-t-elle, c'est qu'on sent chez lui le don. Je vous dirais que je fais bon marché du savoir. Ce qui s'apprend ne m'intéresse pas. Ces paroles ne sont pas en contradiction avec la valeur particulière de madame de Cambremer, qui était précisément imitée et acquise. Mais justement, une des choses qu'on devait savoir à ce moment-là, c'est que le savoir n'est rien et ne pèse pas un fétu à côté de l'originalité. Madame de Cambremer avait appris, comme le reste, qu'il ne faut rien apprendre. « C'est pour cela, me dit-elle, que Brichot, qui a son côté curieux, car je ne fais pas fi d'une certaine érudition savoureuse, m'intéresse pourtant beaucoup moins. » Mais Brichot, à ce moment-là, n'était occupé que d'une chose. Entendant qu'on parlait musique, il tremblait que le sujet ne rappelât à madame Verdurin la mort de Dechambre. Il voulait dire quelque chose pour écarter ce souvenir funeste. Monsieur de Cambremer lui en fournit l'occasion par cette question. « Alors, les lieux boisés portent toujours des noms d'animaux ?»« Que non pas !» répondit Brichot, heureux de déployer son savoir devant tant de nouveaux, parmi lesquels je lui avais dit qu'il était sûr d'en intéresser au moins un. Il suffit de voir combien, dans les noms de personnes elles-mêmes, un arbre est conservé, comme une fougère dans de la houille. Un de nos pères conscrits s'appelle Monsieur de Sauce de Fraissinet, ce qui signifie, sauf erreur, lieu planté de saules et de frênes. Salix et fraxinetum. Son neveu, Monsieur de Selve, réunit plus d'arbres encore, puisqu'il se nomme de Selve, Silva. Sa niette voyait avec joie la conversation prendre un tour si animé. Il pouvait, puisque Brichot parlait tout le temps, garder un silence qui lui éviterait d'être l'objet des brocards de monsieur et madame Verdurin. Et devenu plus sensible encore dans sa joie d'être délivré, il avait été attendri d'entendre monsieur Verdurin, malgré la solennité d'un tel dîner, dire au maître d'hôtel de mettre une carafe d'eau près de monsieur sa niette, qui ne buvait pas autre chose. Les généraux qui font tuer le plus de soldats tiennent à ce qu'ils soient bien nourris. Enfin, madame Verdurin avait une fois souri à sa niette. Décidément, c'était de bonnes gens. Ils ne seraient plus torturés. À ce moment, le repas fut interrompu par un convive que j'ai oublié de citer. Un illustre philosophe norvégien, qui parlait le français très bien, mais très lentement. Pour la double raison, d'abord que, l'ayant appris depuis peu et ne voulant pas faire de fautes, il en faisait pourtant quelques-unes, il se reportait pour chaque mot à une sorte de dictionnaire intérieur. Ensuite, parce qu'en tant que métaphysicien, il pensait toujours ce qu'il voulait dire pendant qu'il le disait. Ce qui, même chez un Français, est une cause de lenteur. C'était du reste un être délicieux, quoique pareil en apparence à beaucoup d'autres, sauf sur un point. cet homme, au parler si lent, il y avait un silence entre chaque mot, devenait d'une rapidité vertigineuse pour s'échapper dès qu'il avait dit adieu. Sa précipitation faisait croire la première fois qu'il avait la colique, ou encore un besoin plus pressant. « Mon cher collègue, dit-il à Brichot, après avoir délibéré dans son esprit si « collègue » était le terme qui convenait, « j'ai une sorte de désir pour savoir s'il y a d'autres arbres dans la nomenclature de votre belle langue française, latine, normande. Madame. » Il voulait dire Madame Verdurin, quoiqu'il n'osât la regarder. « M'a dit que vous saviez toutes choses. N'est-ce pas précisément le moment ?»« Non, c'est le moment de manger. » interrompit Madame Verdurin, qui voyait que le dîner n'en finissait pas. « Ah, bien !» répondit le Scandinave, baissant la tête dans son assiette, avec un sourire triste et résigné. « Mais je dois faire observer à Madame que, si je me suis permis ce questionnaire, pardon, ce questation, c'est que je dois retourner demain à Paris pour dîner chez la Tour d'Argent ou chez l'hôtel Meurice. Mon confrère, français, Monsieur Boutrou, doit nous y parler des séances de spiritisme, pardon, des évocations spiritueuses qu'il a contrôlées. « Ce n'est pas si bon qu'on dit, la Tour d'Argent, dit Madame Verdurin agacée. Et j'y ai même fait des dîners détestables. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que la nourriture qu'on mange chez Madame n'est pas de la plus fine cuisine française? Mon Dieu, ce n'est pas positivement mauvais, répondit Madame Verdurin radoucie. Et si vous venez mercredi prochain, ce sera meilleur. Mais je pars lundi pour Alger, et de là je vais à Cap, et quand je serai à Cap de Bonne-Espérance, je ne pourrai plus rencontrer mon illustre collègue. Pardon, je ne pourrai plus rencontrer mon confrère. Et il se mit, par obéissance, après avoir fourni ses excuses rétrospectives, à manger avec une rapidité vertigineuse. Mais Brichot était trop heureux de pouvoir donner d'autres étymologies végétales, et il répondit, intéressant tellement le Norvégien que celui-ci cessa de nouveau de manger, mais en faisant signe qu'on pouvait ôter son assiette pleine et passer au plat suivant. « Un des 40, dit Brichot, a nom Oussaï, ou lieu planté de houx. Dans celui d'un fin diplomate, d'Ormesson, vous retrouvez l'Orme, l'Ulmus, cher à Virgile, et qui a donné son nom à la ville d'Ulm. Dans celui de ses collègues, monsieur de la Boulaye, le Boulot, monsieur Donnet, l'Aune, monsieur de Buissière, le Buis, monsieur Albaret, l'Aubier. Je me promis de le dire à Céleste. Monsieur de Cholet, le chou. Et le pommier, dans le nom de monsieur de la Pommeraye, que nous entendîmes conférencier, sa niette. Vous en souvient-il, du temps que le bon Porel avait été envoyé aux confins du monde comme proconsul en Odéonie? Au nom de sa niette, prononcé par Brichot, monsieur Verdurin lança à sa femme et à Cottard un regard ironique qui démonta le timide. « Vous disiez que Cholet vient de Chou ? » dis-je à Brichot. « Est-ce qu'une station où j'ai passé avant d'arriver à Doncières, Saint-Frichou, vient aussi de Chou ? » ?»« Non. Saint-Frichou, c'est Sanctus Fructuosus, comme Sanctus Ferreolus, donna Saint-Fargeau, mais ce n'est pas normand du tout. « Il sait trop de choses, il nous ennuie !» gloussa doucement la princesse. « Il y a tant d'autres noms qui m'intéressent, mais je ne peux pas tout vous demander en une fois. » Et me tournant vers Cottard, « Est-ce que Madame Pudbu est ici ?» lui demandai-je. « Non, Dieu merci, répondit Madame Verdurin qui avait entendu ma question. « J'ai tâché de dériver ces villégiatures vers Venise. Nous en sommes débarrassés pour cette année. » « Je vais avoir moi-même droit à deux arbres, » dit Monsieur de Charlus, « car j'ai à peu près retenu une petite maison entre Saint-Martin-du-Chêne et Saint-Pierre-des-Ifs. « Mais c'est très près d'ici. J'espère que vous viendrez souvent en compagnie de Charlie Morel. Vous n'aurez qu'à vous entendre avec notre petit groupe pour les trains. Vous êtes à deux pas de Doncières, » dit Madame Verdurin, qui détestait qu'on ne vînt pas par le même train et aux heures où elle envoyait des voitures. Elle savait combien la montée à la Raspelière, même en faisant le tour par des lacis derrière Féterne, ce qui retardait d'une demi-heure, était dure. Elle craignait que ceux qui feraient bande à part ne trouvassent pas de voiture pour les conduire, ou même, étant en réalité restés chez eux, puissent prendre le prétexte de n'en avoir pas trouvé à Deauville-Féterne et de ne pas s'être senti la force de faire une telle ascension à pied. À cette invitation, M. de Charlus se contenta de répondre par une muette inclinaison. « Il ne doit pas être commode tous les jours. Il a un air pincé. » chuchota à Ski le docteur, qui, étant resté très simple, malgré une couche superficielle d'orgueil, ne cherchait pas à cacher que Charlus le snobait. Il ignore sans doute que dans toutes les villes d'eau, et même à Paris, dans les cliniques, les médecins, pour qui je suis naturellement le grand chef, tiennent à honneur de me présenter à tous les nobles qui sont là et qui n'emmènent pas large. Cela rend même assez agréable pour moi le séjour des stations balnéaires, ajouta-t-il d'un air léger. Même à Doncières, le major du régiment, qui est le médecin traitant du colonel, m'a invité à déjeuner avec lui en me disant que j'étais en situation de dîner avec le général. Et ce général est un monsieur de quelque chose. Je ne sais pas si ses parchemins sont plus ou moins anciens que ceux de ce baron. Ne vous montez pas le bourrichon, c'est une bien pauvre couronne, répondit Ski à mi-voix. Et il ajouta quelque chose de confus avec un verbe où je distinguais seulement les dernières syllabes, ardé, occupé que j'étais d'écouter ce que Brichot disait à M. de Charlus. Non, probablement, j'ai le regret de vous le dire, vous n'avez qu'un seul arbre, car si Saint-Martin-du-Chêne est évidemment Sanctus Martinus juxta quercum, en revanche, le mot « if » peut-être simplement la racine, ave, ève, qui veut dire humide, comme dans Aveyron, Lodève, Yvette, et que vous voyez subsister dans vos éviers de cuisine. C'est l'eau, qui en breton se dit ster, ster Maria, ster Laer, ster Bouest, ster Andrequen. Je n'entendis pas la fin, car quelque plaisir que j'eusse eu à réentendre le nom de Stermaria, malgré moi j'entendais Cottard, près duquel j'étais, qui disait tout bas à Ski. Ah, mais je ne savais pas. Alors c'est un monsieur qui sait se retourner dans la vie. Comment? Il est de la confrérie. Pourtant, il n'a pas les yeux bordés de jambon. Il faudra que je fasse attention à mes pieds sous la table. Il n'aurait qu'à en pincer pour moi. Du reste, cela ne m'étonne qu'à moitié. Je vois plusieurs nobles à la douche, dans le costume d'Adam. Ce sont plus ou moins des dégénérés. Je ne leur parle pas, parce qu'en somme, je suis fonctionnaire, et que cela pourrait me faire du tort. Mais ils savent parfaitement qui je suis. » Sa niette, que l'interpellation de Brichot avait effrayée, commençait à respirer, comme quelqu'un qui a peur de l'orage et qui voit que l'éclair n'a été suivi d'aucun bruit de tonnerre, et quand il entendit M. Verdurin le questionner, tout en attachant sur lui un regard qui ne lâchait pas le malheureux tant qu'il parlait, de façon à le décontenancer tout de suite et à ne pas lui permettre de reprendre ses esprits. Mais vous nous aviez toujours caché que vous fréquentiez les matinées de l'Odéon, sa niette. » Tremblant comme une recrue devant un sergent tourmenteur, sa niette répondit, en donnant à sa phrase les plus petites dimensions qu'il put, afin qu'elle eût plus de chance d'échapper au coup. « Une fois à la chercheuse. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» hurla M. Verdurin d'un air à la fois écœuré et furieux, en fronçant les sourcils comme s'il n'avait pas assez de toute son attention pour comprendre quelque chose d'inintelligible. « D'abord, on ne comprend pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ?» demanda M. Verdurin de plus en plus violent et faisant allusion au défaut de prononciation de sa niette. « Pauvre sa niette, je ne veux pas que vous le rendiez malheureux !» dit Madame Verdurin sur un ton de fausse pitié, et pour ne laisser un doute à personne sur l'intention insolente de son mari. « J'étais à la Tâchez de parler clairement !» dit Monsieur Verdurin. « Je ne vous entends même pas !» Presque aucun des fidèles ne se retenait de s'esclaffer, et ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang. Car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. « Voyons, ce n'est pas sa faute !» dit Madame Verdurin. « Ce n'est pas la mienne non plus. On ne dîne pas en ville quand on ne peut plus articuler. » « J'étais à la chercheuse d'esprit de Favart. »« Quoi ? C'est la chercheuse d'esprit que vous appelez la chercheuse ? C'est magnifique. J'aurais pu chercher 100 ans sans trouver. » s'écria M. Verdurin, qui pourtant aurait jugé du premier coup que quelqu'un n'était pas lettré artiste, n'en était pas, s'il l'avait entendu dire le titre complet de certaines œuvres. Par exemple, il fallait dire « le malade », « le bourgeois ». Et ceux qui auraient ajouté « imaginaire » ou « gentilhomme » eussent témoigné qu'il n'était pas de la boutique. De même que dans un salon, quelqu'un prouve qu'il n'est pas du monde en disant « Monsieur de Montesquieu fait en sac » pour « Monsieur de Montesquieu ». « Mais ce n'est pas si extraordinaire !» dit sa niette, essoufflée par l'émotion, mais souriant, quoiqu'il n'en eût pas envie. Madame Verdurin éclata. « Oh si !» s'écria-t-elle en ricanant. « Soyez convaincus que personne au monde n'aurait pu deviner qu'il s'agissait de la chercheuse d'esprit. » Monsieur Verdurin reprit d'une voix douce et s'adressant à la fois à sa niette et à Brichot. « C'est une jolie pièce, d'ailleurs, la chercheuse d'esprit. » Prononcée sur un ton sérieux, cette simple phrase, où on ne pouvait trouver trace de méchanceté, fit à sa niette autant de bien et excita chez lui autant de gratitude qu'une amabilité. Il ne put proférer une seule parole et garda un silence heureux. Brichot fut plus loquace. « Il est vrai, » répondit-il à M. Verdurin, « et si on la faisait passer pour l'œuvre de quelque auteur sarmate ou scandinave, on pourrait poser la candidature de la chercheuse d'esprit à la situation vacante de chef-d'œuvre. Mais, soit dit sans manquer de respect aux mânes du gentil Favart, il n'était pas de tempérament ibsénien. » Aussitôt, il rougit jusqu'aux oreilles en pensant au philosophe norvégien, lequel avait un air malheureux, parce qu'il cherchait en vain à identifier quel végétal pouvait être le buis que Brichot avait cité tout à l'heure à propos de Bussière. D'ailleurs, la satrapie de Porel étant maintenant occupée par un fonctionnaire qui est un tolstoïsant de rigoureuse observance, il se pourrait que nous vissions Anna Karénine ou Résurrection sous l'architrave odéonienne. Je sais le portrait de Favart dont vous voulez parler, dit monsieur de Charlus. J'en ai vu une très belle épreuve chez la comtesse Molé. Le nom de la comtesse Molé produisit une forte impression sur madame Verdurin. Ah, vous allez chez madame de Molé, s'écria-t-elle. Elle pensait qu'on disait la comtesse Molé, madame Molé, simplement par abréviation, comme elle entendait dire les Rohan, ou par dédain, comme elle-même disait madame la Trémoille. Elle n'avait aucun doute que la comtesse Molé, connaissant la reine de Grèce et la princesse de Caprarola, eut autant que personne droit à la particule. Et pour une fois, elle était décidée à la donner à une personne si brillante et qui s'était montrée fort aimable pour elle. Aussi, pour bien montrer qu'elle avait parlé ainsi à dessein et ne marchandant pas ce « de » à la comtesse, elle reprit. « Mais je ne savais pas du tout que vous connaissiez madame de Molé. » Comme si ça avait été doublement extraordinaire, et que monsieur de Charlus connût cette dame, et que madame Verdurin ne sut pas qu'il la connaissait. Or, le monde, ou du moins ce que monsieur de Charlus appelait ainsi, forme un tout relativement homogène et clos. Autant il est compréhensible que, dans l'immensité disparate de la bourgeoisie, un avocat dise à quelqu'un qui connaît un de ses camarades de collège « Mais comment diable connaissez-vous un tel ?» En revanche, s'étonner qu'un Français connu, le sens du mot « temple » ou « forêt », ne serait guère plus extraordinaire que d'admirer les hasards qui avaient pu conjoindre M. de Charlus et la comtesse Molé. De plus, même si une telle connaissance n'eût pas tout naturellement découlé des lois mondaines, si elle eût été fortuite, comment eût-il été bizarre que madame Verdurin l'ignorât, puisqu'elle voyait monsieur de Charlus pour la première fois, et que ses relations avec madame Molé étaient loin d'être la seule chose qu'elle ne sût pas relativement à lui, de qui, à vrai dire, elle ne savait rien. « Qu'est-ce qui jouait cette chercheuse d'esprit, mon petit Sagnette ?» demanda monsieur Verdurin. Bien que sentant l'orage passer, l'ancien archiviste hésitait à répondre. « Mais aussi, dit madame Verdurin, tu l'intimides, tu te moques de tout ce qu'il dit, et puis tu veux qu'il réponde. Voyons, dites, qui jouait ça? On vous donnera de la galantine à emporter. » dit madame Verdurin, faisant une méchante allusion à la ruine où Sagnette s'était précipité lui-même, en voulant en tirer un ménage de ses amis. « Je me rappelle seulement que c'était madame Samary qui faisait la zerbinette, » dit sa niette. « La zerbine? Qu'est-ce que c'est que ça ? » cria monsieur Verdurin comme s'il y avait le feu. « C'est un emploi de vieux répertoire, voir le capitaine Fracasse, comme qui dirait le tranche-montagne, le pédant. »« Ah, le pédant, c'est vous, la zerbine !» « Non, mais il est toqué !» s'écria monsieur Verdurin. Madame Verdurin regarda ses convives en riant, comme pour excuser sa niette. « La zerbine, il s'imagine que tout le monde sait aussitôt ce que cela veut dire. Vous êtes comme monsieur de Longepierre, l'homme le plus bête que je connaisse, qui nous disait familièrement l'autre jour le bana. Personne n'a su de quoi il voulait parler. » Finalement, on a appris que c'était une province de Serbie. Pour mettre fin au supplice de sa niette, qui me faisait plus de mal qu'à lui, je demandai à Brichot s'il savait ce que signifiait Balbec. Balbec est probablement une corruption de Dalbec, me dit-il. Il faudrait pouvoir consulter les chartes des rois d'Angleterre, suzerains de la Normandie, car Balbec dépendait de la baronnie de Douvres, à cause de quoi on disait souvent Balbec d'outre-mer, Balbec en terre. Mais la baronnie de Douvres elle-même relevait de l'évêché de Bayeux, et malgré des droits qu'eurent momentanément les Templiers sur l'abbaye, à partir de Louis d'Harcourt, patriarche de Jérusalem et évêque de Bayeux, ce furent les évêques de ce diocèse qui furent collateurs au bien de Balbec. C'est ce que m'a expliqué le doyen de Deauville, homme chauve, éloquent, chimérique et gourmé, qui vit dans l'obédience de Brillat Savarin, et m'a exposé avec des termes un tantinet sibyllins d'une certaine pédagogie, tout en me faisant manger d'admirables pommes de terre frites. Tandis que Brichot souriait, pour montrer ce qu'il y avait de spirituel à unir des choses aussi disparates et à employer pour des choses communes un langage ironiquement élevé, sa nièce cherchait à placer quelques traits d'esprit qui pût le relever de son effondrement de tout à l'heure. Le trait d'esprit était ce qu'on appelait un « à peu près », mais qui avait changé de forme. Car il y a une évolution pour les calembours, comme pour les genres littéraires, les épidémies qui disparaissent remplacées par d'autres, etc. Jadis, la forme de « l'à peu près » était le comble. Mais elle était surannée, personne ne l'employait plus. Il n'y avait plus que Cottard pour dire encore parfois, au milieu d'une partie de piquet, « Savez-vous quel est le comble de la distraction ? C'est de prendre Lady de Nantes pour une Anglaise. » Les combles avaient été remplacés par les surnoms. Au fond, c'était toujours le vieil « à peu près ». Mais comme le surnom était à la mode, on ne s'en apercevait pas. Malheureusement pour sa nièce, quand ces « à peu près » n'étaient pas de lui, et d'habitude inconnus au petit noyau, il les débitait si timidement que, malgré le rire dont il les faisait suivre pour signaler leur caractère humoristique, personne ne les comprenait. Et si, au contraire, le mot était de lui, comme il l'avait généralement trouvé en causant avec un des fidèles, celui-ci l'avait répété en se l'appropriant, le mot était alors connu, mais non comme étant de sa nièce. Aussi, quand il glissait un de ceux-là, on le reconnaissait. Mais, parce qu'il en était l'auteur, on l'accusait de plagiat. « Or donc, » continua Brichot, « bec en normand est ruisseau. Il y a l'abbaye du bec. Maubec, le ruisseau du marais. Mor ou mer voulait dire marais, comme dans Morville ou dans Briquemar, Alvimar, Cambremer. Briquemer, le ruisseau de la hauteur, venant de Briga, lieu fortifié, comme dans Briqueville, Briquebosque, le Bric, brillant, ou bien Bris, pont, qui est le même que Bruck en allemand, Innsbruck, et qu'en anglais, Bridge, qui termine tant de noms de lieux, Cambridge, etc. Vous avez encore en Normandie bien d'autres becs. Caudebec, Bolbec, Lerobec, le bec est loin, Becquerel. C'est la forme normande du germain bac, Offenbach, Hansbach. Varaguebec, du vieux mot varègne, équivalent de garenne, bois étant réservé. Quant à dalle, reprit Brichot, c'est une forme de tal, vallée, Darnetal, Rosenthal, et même jusque près de Louviers, Becdal. La rivière qui a donné son nom à Dalbec est d'ailleurs charmante. Vue d'une falaise, Fels en allemand, vous avez même non loin d'ici, sur une hauteur, la jolie ville de Falaise. Elle voisine les flèches de l'église, située en réalité à une grande distance, et a l'air de les refléter. « Je crois bien, dis-je. C'est un effet qu'Elstir aime beaucoup. J'en ai vu plusieurs esquisses chez lui. Elstir, vous connaissez Tisch ? » s'écria Madame Verdurin. Mais vous savez que je l'ai connu dans la dernière intimité. Grâce au ciel, je ne le vois plus. Non, mais demandez à Cottard, à Brichot. Il avait son couvert mis chez moi, il venait tous les jours. En voilà un dont on ne peut dire que ça ne lui a pas réussi de quitter notre petit noyau. Je vous montrerai tout à l'heure des fleurs qu'il a peintes pour moi. Vous verrez quelle différence avec ce qu'il fait aujourd'hui. et que je n'aime pas du tout, mais pas du tout. Mais comment ? Je lui avais fait faire un portrait de Cottard, sans compter tout ce qu'il a fait d'après moi. Et il avait fait au professeur des cheveux mauves, dit Madame Cottard, oubliant qu'alors son mari n'était pas agrégé. « Je ne sais, monsieur, si vous trouvez que mon mari a des cheveux mauves. »«
Ça ne veut rien, » dit Madame Verdurin en levant le menton, d'un air de dédain pour Madame Cottard et d'admiration pour celui dont elle parlait. « C'était d'un fier coloriste, d'un beau peintre. »«
Tandis que, » ajouta-t-elle en s'adressant de nouveau à moi, « je ne sais pas si vous appelez cela de la peinture, toutes ces grandes diablesses de composition, ces grandes machines qu'il expose depuis qu'il ne vient plus chez moi. Moi, j'appelle cela du barbouillé. C'est d'un poncif. Et puis ça manque de relief, de personnalité. Il y a de tout le monde là-dedans. »
« Il restitue la grâce du 18e, mais moderne, » dit précipitamment sa nièce, tonifiée et remise en selle par mon amabilité. « Mais j'aime mieux Helleux. »
« Il n'y a aucun rapport avec Helleux, » dit Madame Verdurin.
« Si, c'est du 18e siècle fébrile, c'est un watteau à vapeur. » Et il se mit à rire.
« Oh, connu, archi-connu, il y a des années qu'on me le resserre, »
dit Monsieur Verdurin, à qui, en effet, ce qu'il avait raconté autrefois, mais comme fait par lui-même.
« Ce n'est pas de chance que, pour une fois que vous prononcez intelligiblement quelque chose d'assez drôle, ce ne soit pas de vous. »«
Ça me fait de la peine, » reprit Madame Verdurin, « parce que c'était quelqu'un de doué. » Il a gâché un joli tempérament de peintre. Ah, s'il était resté ici, mais il serait devenu le premier paysagiste de notre temps. Et c'est une femme qui l'a conduit si bas. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, car l'homme était agréable, mais vulgaire. Au fond, c'était un médiocre. Je vous dirai que je l'ai senti tout de suite. Dans le fond, il ne m'a jamais intéressée. Je l'aimais bien, c'était tout. D'abord, il était d'un sale. Vous aimez beaucoup ça, vous, les gens qui ne se lavent jamais?
Qu'est-ce que c'est que cette chose si jolie de thon que nous mangeons? Demanda Ski.
Cela s'appelle de la mousse à la fraise, dit Madame Verdurin.
Mais c'est ravissant! Il faudrait faire déboucher des bouteilles de Château Margaux, de Château Lafitte, de Porto.
« Je ne peux pas vous dire comme il m'amuse. Il ne boit que de l'eau, » dit Madame Verdurin pour dissimuler sous l'agrément qu'elle trouvait à cette fantaisie l'effroi que lui causait cette prodigalité.
« Mais ce n'est pas pour boire, » reprit Ski. « Vous en remplirez tous nos verres. On apportera de merveilleuses pêches, d'énormes brugnons, là, en face du soleil couché. Ça sera luxuriant comme un beau Véronèse. »
« Ça coûtera presque aussi cher, » murmura Monsieur Verdurin.
« Mais enlevez ces fromages, si vilains de thon !» dit-il en essayant de retirer l'assiette du patron, qui défendit son gruyère de toutes ses forces.
« Vous comprenez que je ne regrette pas Elstir, » me dit Madame Verdurin. « Celui-ci est autrement doué.
Elstir, c'est le travail, l'homme qui ne sait pas lâcher sa peinture quand il en a envie. C'est le bon élève, la bête à concours.
Ski, lui, ne connaît que sa fantaisie. Vous le verrez allumer sa cigarette au milieu du dîner.
Au fait, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas voulu recevoir sa femme, dit Cottard. Il serait ici comme autrefois.
Dites donc, voulez-vous être poli, vous ? « Je ne reçois pas de gourgandine, monsieur le professeur, »
dit Madame Verdurin, qui avait, au contraire, fait tout ce qu'elle avait pu pour faire revenir Elstir, même avec sa femme. Mais avant qu'ils fussent mariés, elle avait cherché à les brouiller. Elle avait dit à Elstir que la femme qu'il aimait était bête, sale, légère, avait volé. Pour une fois, elle n'avait pas réussi la rupture. C'est avec le salon Verdurin,
qu'Elstir avait rompu. Et il s'en félicitait, comme les convertis bénissent la maladie ou le revers qui les a jetés dans la retraite et leur a fait connaître la voie du salut. « Il est magnifique, le professeur, » dit-elle. « Déclarez plutôt que mon salon est une maison de rendez-vous. Mais on dirait que vous ne savez pas ce que c'est que Madame Elstir. J'aimerais mieux recevoir la dernière des filles. Ah non, je ne mange pas de ce pain-là. D'ailleurs, je vous dirais que j'aurais été d'autant plus bête de passer sur la femme que le mari ne m'intéresse plus. C'est démodé. Ce n'est même plus dessiné. » « C'est extraordinaire pour un homme d'une pareille intelligence, » dit Cottard. « Oh non !» répondit Madame Verdurin. « Même à l'époque où il avait du talent, car il en a eu, le gredin, et à revendre. Ce qui agaçait chez lui, c'est qu'il n'était aucunement intelligent. » Madame Verdurin, pour porter ce jugement sur Elstir, n'avait pas attendu leur brouille et qu'elle n'aimât plus sa peinture. C'est que, même au temps où il faisait partie du petit groupe, il arrivait qu'Elstir passait des journées entières avec telle femme qu'à tort ou à raison, Madame Verdurin trouvait bécasse, ce qui, à son avis, n'était pas le fait d'un homme intelligent. « Non, » dit-elle d'un air d'équité, « je crois que sa femme et lui sont très bien faits pour aller ensemble. Dieu sait que je ne connais pas de créature plus ennuyeuse sur la terre. » Et que je deviendrais enragée s'il me fallait passer 2 heures avec elle. Mais on dit qu'il la trouve très intelligente. C'est qu'il faut bien l'avouer, notre Tiche était surtout excessivement bête. Je l'ai vue épatée par des personnes que vous n'imaginez pas, par de braves idiotes dont on n'aurait jamais voulu dans notre petit clan. Eh bien, il leur écrivait, il discutait avec elle, lui, Elstir. Ça n'empêche pas des côtés charmants. Ah, charmant, charmant, et délicieusement absurde, naturellement. Car Madame Verdurin était persuadée que les hommes vraiment remarquables font 1000 folies, idées fausses où il y a pourtant quelques vérités. Certes, les folies des gens sont insupportables, mais un déséquilibre qu'on ne découvre qu'à la longue est la conséquence de l'entrée dans un cerveau humain de délicatesse pour lesquelles il n'est pas habituellement fait. En sorte que les étrangetés des gens charmants exaspèrent, mais qu'il n'y a guère de gens charmants qui ne soient par ailleurs étranges. Tenez, je vais pouvoir vous montrer tout de suite ces fleurs, me dit-elle en voyant que son mari lui faisait signe qu'on pouvait se lever de table. Et elle reprit le bras de M. de Cambremer.